Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, nous sommes le mois de mars. Et oui, on est encore le mois de mars. Et donc, c'est le mois spécial féminisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a le 8 mars. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je fais des sujets féministes, même en avril, mai, juin, juillet, etc. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire un sujet pas du tout toute seule, mais au contraire avec une invitée que j'ai découverte par des amies communes et surtout par des accointances politiques et de convictions communes. Elle s'appelle Camille Test. Salut Camille.
Salut.
Camille, elle est podcasteuse chez Binge Audio dans un podcast qui s'appelle Encore Heureux.
Exactement.
Encore ouais. Heureux, podcast, heureuse.
Encore heureux, heureuse, ouais.
Ouais. Ouais.
On s'est posé la question de...
C'est
de,
vrai.
C'était un peu long, j'avoue.
Je viens de mettre le pavé dans la mare. Ça commence bien, cette affaire.
Un tabou, on va lever
voilà,
un tabou.
Voilà, très bien. Et tu es autrice, ça j'ai le droit, autrice du bouquin qui s'appelle Politiser le bien-être aux éditions Binge Audio aussi.
Ouais.
Politiser le bien-être, en fait, alors moi ça me passionne totalement, évidemment, moi pour les gens qui écoutent beaucoup mon podcast, je suis pas du tout friande, moi, de la consommation de bien-être, je trouve ça évidemment dangereux, culpabilisant et tout ce qu'on commence à en dire beaucoup aujourd'hui. Toi tu es experte de ça et j'avais envie de te questionner sur tout ce développement personnel là. Est-ce qu'il nous fait vraiment beaucoup de bien à nous, les femmes, qui en sommes très consommatrices ? Ouais. Et est-ce qu'il est même dangereux pour le féminisme pour, voilà. Donc ça va être ça le sujet, on se fait un petit générique. Générique.
Salut, c'est Madame Meuf.
Oh,
yeah. Et bam. Et bam. C'est Madame Meuf. Donc Camille, oui, en effet, le développement personnel, en anglais, c'est le self-care, je crois, c'est
ça ? Le self-help.
Le self-help. Alors oui, le self-help, c'est déjà fabuleux, c'est démerde-toi toi-même. Hein,
c'est ça.
Nouveau mantra philosophique qui date du 20e siècle.
Ouais, qui émerge avec... bon, il y a une histoire en gros, mais disons que qui commence à être populaire à peu près dans les années Thatcher-Reagan, c'est-à-dire le début du néolibéralisme, c'est-à-dire en gros les années 80, ouais, qui va devenir en gros de pire en pire. En gros, le capitalisme néolibéral, donc à peu près à partir des années 80, est le moment où, qui va permettre l'émergence du développement personnel. Tu l'as dit, c'est vraiment le démerde-toi pour être heureux toi-même. Et donc, en gros, pour ça, tu vas t'auto-optimiser avec tout un tas de pratiques qu'on pourra peut-être développer après, mais en gros qui vont de s'acheter des livres de développement personnel à faire des stages de X et Y choses, etc. En général, ça coûte de l'argent.
Ouais.
C'est aussi le moment de l'émergence en fait du marché du bien-être qui aujourd'hui est le marché qui est l'un des plus en santé du capitalisme. On parle de 5000 milliards de chiffre d'affaires à l'international par an. Donc c'est
ah ouais, moi j'ai vu un chiffre dans Psychology Today, 11 milliards de dollars par an et 32% de la part de marché du bouquin.
Ouais.
Dans les gares, c'est 98%. Voilà.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le monde sort son bouquin de développement personnel. N'importe quelle star, n'importe quelle influenceuse va à un moment se sortir son bouquin de dev perso parce que ça se vend hyper, hyper bien. Quoi.
Ouais, c'est clair. Et donc, comme tu le disais, il y a l'idée de se saisir soi-même, de s'auto-optimiser. J'adore ce terme, évidemment. C'est-à-dire qu'il va falloir, en fait, l'optimisation, l'efficacité va nous amener au bonheur.
Exactement. En gros, tu vas prendre tous les espaces de ta vie, donc je sais pas, ta santé physique, ta santé mentale, tes émotions, tes relations, et tu vas essayer de tout optimiser. Et donc, tu vas essayer... C'est un peu le dévoiement d'un esprit sain dans un corps sain, si tu veux. Alors, le truc de ça, c'est qu'en fait, oui, effectivement, on considère qu'à la fin, une fois qu'on aura tout optimisé, on sera heureux et heureuse.
Ouais.
Et en fait, l'arnaque énorme sur laquelle je mets le doigt, c'est que, en fait, le bonheur n'est pas ne peut pas apparaître juste par des choix individuels. C'est-à-dire que tu peux faire tout le pilates que tu veux et faire des skincare routines tous les jours et développer des compétences de communication. Ça, à la marge, évidemment, ça va t'aider. Mais si tu étais sur une planète qui brûle dans un système profondément inégalitaire avec du racisme, du sexisme, du validisme et qu'on n'a aucun espoir que ce monde aille mieux demain puisque le GIEC nous prévoit des choses quand même pas ouf pour les prochaines années, bah, si tu veux, ça courir après ce bonheur ainsi, ça n'a aucun sens. Et ça nous empêche, en quelque sorte. Enfin, moi, je suis terrifiée de me dire que tout ce temps, si on additionne les heures passées à se développer personnellement, on se détournerait un tout petit peu de ça, ne serait-ce qu'on reprend 10% de ce temps-là et on va s'engager collectivement pour changer un certain nombre de choses. Je pense que ça irait mieux pour tout le monde.
Mais déjà, tu vois, récemment, Instagram a revu sa politique, enfin, Meta a revu sa politique. Tu sais, maintenant, ils veulent dégrader les contenus politiques sur les réseaux parce que c'est pas assez divertissant. Alors même que de se mettre des crèmes toute la journée sur la tronche, la consommation est aussi politique, tu vois. Et donc, tout ça, effectivement, tu parles de temps passé à ça, mais il y a aussi, évidemment, l'idée de porter en faux, de mettre dans les orties, là, dans un petit coin, l'idée qu'évidemment, le bien-être, tu ne peux pas l'avoir si économiquement, socialement, c'est une catastrophe. Si tu subis quotidiennement du harcèlement au travail, si tu n'as aucun moyen, parce qu'en plus, évidemment, que c'est quand même des bouquins qui s'adressent à des gens qui peuvent se les payer. Mmh. On est sur une norme qui s'adresse à des gens CSP+,
Ouais, ou alors le développement personnel et tout ce qui va avec, par exemple le coaching, c'est aussi des outils, des pratiques, les coachs qui peuvent cibler des personnes potentiellement assez précarisées ou en tout cas, je pense par exemple, moi, le profil type de... Sur Instagram, il y a beaucoup de femmes coachs qui promettent notamment à des femmes, en gros, une meilleure vie, de s'émanciper de tout un tas de choses. Et en gros, pour ça, il va falloir acheter genre, leur programme de coaching à 3 333 euros parce que souvent, c'est ce qu'on appelle des chiffres miroirs avec des genre 8 888.
Voilà.
Et donc, souvent, les gens qui sont ciblés par ça, ça va être des mères, potentiellement des mères seules, qui ont des salaires pas dingues, et en fait, qui, en fait, leur vie, elle est précaire, elle est pas ouf, elles n'ont pas énormément de potentialité. Enfin, ça va être compliqué de s'émanciper de leurs conditions. Ouais. Et donc, elles vont se dire, autant viser, je sais pas, un coach qui, un peu par miracle, en gros, va me sauver de ça, quoi. Souvent, ça se transforme un peu en schéma pyramidal. C'est-à-dire que le coach finit par te former pour être coach. Et toi, tu vas devenir coach et coacher des femmes aussi précaires qui vont elles-mêmes devenir coach.
Dirait le loup de Wall Street, mais version bien-être. Mais c'est vrai, tu sais, dans le loup de Wall Street, il commence à coacher, il commence à vendre des trucs aux gens qui n'ont pas de moyens. Et ensuite, petit à petit.
C'est la pyramide de Ponzi, quoi. Ouais. C'est illégal en France de faire ça. Hein. Ouais. Je veux dire, ce système pyramidal est illégal. Donc, le développement personnel peut toucher des gens CSP+, mais en réalité, pas que.
Hein. D'accord,
okay. Cette logique du dev perso, on la retrouve honnêtement dans tous les milieux, partout, avec différentes sauces, différentes couleurs, différentes idéologies. On va viser des jeunes avec pas forcément beaucoup de moyens, avec plutôt un côté dev perso physique, faites du sport, allez au gym. C'est qu'aujourd'hui, la muscu, c'est le sport préféré des 18-25. Par exemple, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et c'est vrai que moi, parfois, je vois des petits frères, des petites sœurs d'amis qui ont 15 ans et qui vont 8 heures par semaine au gym pour optimiser leur corps. Évidemment que ça, c'est très bien de faire du sport. De là à ce que ce soit une addiction au point d'avoir l'impression qu'on est une horrible personne si on n'est pas allé faire ses squats bulgares ou ses fentes bulgares.
Non, mais en fait, ça reste des pratiques individuelles aussi. Ça, c'est-à-dire qu'il y a le côté change ta façon de voir les choses toi-même au lieu de changer le monde et exerce toi pour toi-même au lieu de voir avec les autres comment ils vont. Parce qu'il y a aussi quand même, quand tu vas te tourner vers Ho'oponopono, le bien-être des guérisseurs hawaïens, c'est que ça n'allait pas super fort au départ quand même. Non, mais en vrai, je moque un peu le truc, mais quand tu vas chercher ça, c'est parce que t'as un truc à remplir. Moi, j'ai fait un peu à une époque, moi j'ai été très très hypochondriaque, et donc j'avais lu que les trucs comportementalistes agissaient sur l'hypochondrie. Ok, j'ai un peu mis en échec, mais en tout cas, on m'avait envoyé faire de la mindfulness, donc qui déjà porte bien son nom, mindful, voilà, remplis-toi toi-même, quoi. Et le mec, toutes les semaines, me faisait acheter un bouquin. Toutes les semaines, j'avais une nouvelle pathologie. Et donc, toutes les semaines, je descendais d'un degré dans l'impression d'être une grosse merde. C'est-à-dire que tu vas te tourner vers ça, tu vas pas bien. On va te proposer que des cases en plus, parce que on va en parler, mais le nombre de domaines qui se sont touchés, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que c'est tous les domaines les plus intimes en plus. Enfin, tu vois, t'as la santé, t'as le corps, effectivement, quand tu disais le sport, t'as la psy, t'as l'intimité, t'as les relations, t'as l'éducation, t'as tout. Si t'as le bouquin Tout se joue avant 6 ans pour les enfants, à 7 ans. T'es foutu. Enfin, tu vois, tout est comme ça, effectivement, dans un effet boule de neige de « il m'en faudra encore plus, il faudra s'améliorer partout », et le tout, toute seule, derrière mon bouquin ou devant mon écran, quoi.
Ouais, et en fait, ce qui est assez terrifiant, je trouve, avec le développement personnel qui, comme tu le dis, va toucher à plein de... Enfin, va toucher plein de milieux, va prendre différentes couleurs, l'éducation, le corps, la sexualité. C'est que si c'était que quelques personnes, si en gros, il y avait des gens, je sais pas, en France, par exemple, qui s'intéressent à ça, qui aiment bien l'idée de s'auto-optimiser. Mais comme il y a des gens qui aiment le judo, quoi, si tu veux, en fait, on se dirait pourquoi pas. Enfin, après tout, les gens sont libres. Mais ce qui est assez terrifiant, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans une culture du développement personnel, du bien-être, qui fait qu'en fait tout le monde est touché, et même des gens qui n'auraient pas spécialement l'intention à la base de s'auto-optimiser se retrouvent un peu dans l'obligation de le faire, parce qu'en fait On est un peu jugé socialement si on ne se livre pas à cette quête de l'auto-optimisation.
Au travail aussi.
Bien sûr, au travail. Bah, bien sûr, c'est là où en fait, il y a une philosophe slovène qui parle d'impératif biomoral. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est un acte moral. Donc, on est quelqu'un de bien si on se livre à cette quête de la meilleure version de soi-même. Ouais. Si tu ne le fais pas, tu es une mauvaise personne, on va te juger pour ça. Mmh. Et donc, évidemment, c'est un problème parce que bah, déjà, si tu n'as pas envie de le faire, tu n'as pas envie de le faire. Pourquoi est-ce que tu serais une mauvaise personne? Enfin, personne te demande forcément, enfin, pourquoi en fait il faudrait prendre soin de toi, enfin finalement pourquoi, tu vois. Évidemment, ça laisse de côté les gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas l'argent, qui ne peuvent pas, ça laisse de côté des gens, enfin, on va pas dire à des gens qui ne, pour, je sais pas, par exemple, pour des raisons de santé, ne peuvent pas prendre soin particulièrement de leur corps, en gros, bah, on va pas leur dire auto-optimisez-vous. Et bah, pourtant, si, cette morale, enfin, tu vois. Et donc, c'est hyper violent pour tout le monde et un peu et un peu creux quoi, en fait un peu nul quoi.
Et en plus dans le creux et dans la violence, je te dis, moi je trouve qu'il y a une solitude vraiment là-dessus, c'est que on considère que le bien-être n'est pas du tout une question politique, c'est-à-dire la santé mentale donc ne serait pas du tout une question. Bien sûr que le mal-être n'est pas uniquement ne découle pas uniquement de questions de société, d'égalité, etc. Mais quand même évidemment c'est aussi à l'État de rembourser des soins, de permettre l'accès. On l'a bien vu pendant le Covid, là où ils ont essayé de faire leur check-off, là, va 10 minutes chez le psy et tu verras, ça va super. Mais en tout cas, quand même, ça lâche totalement l'idée de... Alors, le mot État-providence, c'est super vieillot, tu vois, mais quand même, le politique est à nouveau encore plus désinvesti de la santé mentale, des conditions de travail, enfin voilà, économique et sociale.
Mais ça surresponsabilise les individus à un point complètement dingue. Enfin, imagine le profil type d'une femme, je sais pas, une femme noire en couple hétérosexuel avec un homme. On est dans un système patriarcal qui fait que potentiellement son mec a appris que mal la traiter c'était pas grave, voire c'était un peu valorisé parfois. Donc en fait son couple ça va pas. Potentiellement elle a des enfants, c'est quasiment qu'elle qui s'occupe de ses gosses. Dans mon exemple cette femme est noire, donc en fait elle se prend du racisme parce qu'on est dans une société raciste. Elle est peut-être précaire. En fait, elle fait face à tout un tas de choses qui sont de l'ordre des structures. Et on lui dit, mais vous inquiétez pas, changez vos énergies, changez votre mindset, vous verrez, ça ira mieux. Ouais. Évidemment qu'elle va y croire, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple de se livrer à la quête de changer son mindset que de arrêter le racisme, en réalité. Sauf que ça...
Mais enfin, écoute, change ton mindset.
Bah, voilà. En fait, ça ne marche pas. Donc, c'est des fausses promesses qu'on fait à cette personne. Et ensuite, on va lui dire, oh là là, écoute, si tu souffres du racisme, change ton mindset. Mais en fait, c'est complètement dingue de dire ça. Organisons-nous pour faire en sorte que notre société soit moins raciste. Je pense que ça sera plus efficace.
Et dans le côté, en fait, au-delà de l'individualisme aussi, tu viens de le dire, l'injonction, la culpabilité. C'est-à-dire, il y a un côté vraiment tyrannique au bordel, quoi. Quand on parle de bien-être, bien manger, bien le sport, machin, ça évacue les troubles alimentaires, voire ça les nourrit. Enfin, tu vois, il y a quand même une honte nouvelle. Enfin, tu vois, toutes ces injonctions, culpabilité, nouvelles normes, je suis une incapable, alimentent, en fait, peut-être même la raison pour laquelle tu es venue à l'origine lire ce bouquin.
Mais alors, écoute, dans les injonctions sur la bouffe, pour moi, c'est un excellent exemple. Dans Encore Heureux, le podcast que j'anime, on a fait un épisode sur la nourriture avec une personne qui s'appelle Zina Mebkout et on parle de ça, en fait, du fait que, effectivement, ces injonctions à bien manger, ton zinc, tes vitamines, tes machins, tes légumes et tout. Bon, déjà, si t'as pas les moyens, c'est ultra culpabilisant parce que c'est bien manger, c'est compliqué. Ouais. Avoir accès à des bons produits, c'est compliqué.
T'as pas arrêté ton Netflix,
c'est ça. Et puis, en fait, comme tu le dis, les troubles alimentaires, ça peut être aussi surcontrôler ce qu'on mange et se dire, oh mon Dieu, si j'ai pas mangé mes 12 vitamines et mes 14 minéraux de la journée, genre, en fait, mon corps est une poubelle. Et en fait, c'est faux. Et c'est une croyance que même la médecine réfute, en quelque sorte, se foutre. Moi, je vraiment, le seul truc que je conseille aux gens, c'est foutez-vous la paix. En fait, vous allez voir qu'en vous foutant la paix, vous dormirez mieux, vous vivrez mieux votre vie et puis vous aurez de l'énergie pour faire des choses qui vous plaisent vraiment plutôt que de stresser sur est-ce que vous avez mangé assez de brocoli, en fait.
Et après, ça fonctionne évidemment aussi sur l'éducation. Tu parlais tout à l'heure, tu vois, imaginons, elle a la chance en plus d'avoir un mec un peu sexiste de s'occuper un peu toute seule de ses gamins. Ça, il y a aussi les chiffres là-dessus sur le burn-out parental, enfin déjà sur les chiffres de qui s'occupe des enfants, ça ça n'évolue quand même pas encore massivement, mais sur le burn-out parental, sur la charge mentale ou sur le burn-out professionnel, bref, les sujets féminins sont quand même vachement plus atteints.
Ah mais en fait, le truc, c'est que les femmes, à la maison, font beaucoup plus de tâches, on le sait. Par ailleurs, on est dans une société patriarcale qui demande aux femmes d'être en tout temps belles. Beaucoup plus qu'aux hommes, quoique ça tente à changer puisque les hommes subissent aussi de plus en plus d'injonctions physiques. Mais donc en fait, déjà, elles doivent être belles, elles doivent être minces, elles doivent être épilées. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et puis le développement personnel, maintenant, on leur demande aussi d'être bien rangées dans leur tête, de faire des morning routines, de voilà. Donc en fait, ça. Et maintenant, on leur demande aussi d'être plus spirituelles, de faire attention à leur âme en quelque sorte. Il y a un peu une injonction à la spiritualité. Et en fait, est-ce que cette to-do list va s'arrêter à un moment?
Et en fait, il y a aussi une totale négation du mal-être. C'est-à-dire enfin, pour moi, il y a une des choses les pires. C'est vraiment un truc... Enfin, moi, j'ai 44 ans, donc j'ai éducation enfant des années 80, tu vois. Et moi, des fois, mes parents, je leur disais, ça va pas. Mais non, ça va. Tu vois, cette génération-là... Alors, nous, les parents aujourd'hui, on essaye de dire, tu vois, d'accueillir... tout n'est pas débile, tu vois, dans ces nouvelles formules aussi, tu vois. Accueillir la souffrance de quelqu'un, c'est quand même un vrai truc. Et en fait, pour moi, il y a vraiment... C'est hyper violent de nier le mal-être de quelqu'un, de dire « mais non, ça va ». Et ça, c'est vraiment l'économie du « mais non, ça va ». Tu vois, démerde-toi pour que ça aille, quoi.
Ouais, le truc du verre à moitié plein. Mais ça se date en plus historiquement. Dans les années 90, au début des années 90, l'association américaine de psychologie, l'APA, va nommer quelqu'un à sa tête qui s'appelle Monsieur Seligman, qui va vraiment promouvoir la psychologie positive. Donc en gros, de dire qu'avant, on se soignait en regardant ce qui n'allait pas. Maintenant, on va se soigner en regardant ce qui va et en essayant de se raccrocher à ça. Donc en fait, c'est à la fois, ça peut être intéressant à la marge, évidemment, que c'est toujours cool de voir un peu les choses du bon côté de temps en temps.
C'est sûr.
Mais en fait, dès lors que ça vient nier des choses qui ne vont vraiment pas, en fait, on ne peut pas répondre à quelqu'un qui vous dit je vis une situation de violence, je ne sais pas, de sexisme, de racisme, ou juste de violence, de harcèlement interpersonnel. Ça va, voilà, le verre à moitié plein, t'as quand même de la chance. Hein, y a des gens qui meurent à l'autre bout de la terre. En fait, c'est pas comme ça qu'on s'occupe des gens.
Non, c'est une négation, ça. Ouais.
Oui, et en fait, ça permet, ce truc de la psychologie positive, ça permet vraiment qu'on continue à voter des lois qui sont injustes pour plein de gens. Parce qu'en fait, ça favorise qui ? Ça favorise les gens qui n'ont pas de problème. Donc en fait, c'est le petit groupe de personnes qui ont tous les privilèges.
Ouais.
Donc encore une fois, ce n'est en faveur de personne. Et c'est là où j'insiste. Je pense vraiment que quand aujourd'hui, on est dans une situation de précarité, ou en tout cas, on n'est pas dans le 1% des dominants du monde, il faut arrêter avec ce concept de positivité toxique.
Ouais.
Vraiment, il faut arrêter. En fait, vous avez le droit d'aller mal. Et si vous allez mal... Je sais que c'est difficile, mais en fait, regardez-le en face et peut-être que de là, on peut tirer un propos politique. C'est-à-dire, vous allez pas mal tout seul en réalité, vous allez mal parce que cette société n'est pas structurée pour favoriser votre épanouissement.
Ouais.
Donc, regardons-le ensemble et luttons contre tout ce qui ne va pas ensemble.
Ouais. Et tu crois vraiment qu'il y a, on disait le marché féminin de ça. Est-ce que tu crois vraiment que ça joue même encore plus le jeu des inégalités de genre ou juste ça les annule?
Dans le développement personnel, toutes ces injonctions sur tout le monde, mais notamment sur les femmes, évidemment que c'est encore plus de temps passé à s'auto-optimiser pour les femmes. J'ai l'impression qu'il y a toujours un nouveau truc à faire pour les femmes. C'est comme à un moment, on s'est réjoui que c'était plus la mode des corps féminins tout minces, mais maintenant c'est la mode des corps féminins très fit. Donc c'est-à-dire non seulement minces, mais aussi musclés. Dans un sens, on peut se dire cool parce que c'est peut-être moins la mode des mannequins avec des troubles alimentaires, malheureusement pour elle. Non, c'est juste une autre forme de... Maintenant, il faut rajouter une couche de muscle, mais quand même très fit, sur des corps très fit. Enfin, c'est une autre injonction qui s'est juste additionnée, en fait.
Mais tu sais que, en fait, moi, justement, j'avais fait un podcast sur le body positive, là. Dans quelle mesure c'est positif, tu vois ? C'est-à-dire que, oui, c'est super de voir la diversité des corps, et encore, hein, comme tu dis, bof-bof, parce que c'est vrai que maintenant, c'est un peu plus... Oui, c'est un peu musclé, un peu machin, mais OK, mettons, on est OK pour avoir changé la gueule des putes de maillot de bain, mais pour autant... C'est pareil, c'est une négation du mal-être, parce que si moi, je me sens pas bien dans mon corps, tu vois, il est vieillissant, il est moins bien, il est machin, je devrais être body positive en me disant « Ah, ben alors c'est super, parce que là, vraiment, tout le monde est accepté, mais moi, je ne me l'accepte pas, il ne me plaît pas, ou j'ai du mal à y aller. » Enfin, tu vois, il y a encore à nouveau, dans ce truc de positive, une négation totale de la possibilité D'avoir un moment pour accepter les trucs ou pour aller pas bien, quoi.
Je te rejoins sur ça. Évidemment, moi, je me réjouis quand même qu'on on voit des corps différents aujourd'hui.
Évidemment, pareil.
Les images autour de nous, et je trouve ça formidable. Et je pense qu'on en est qu'au début, et j'espère que ça va changer, parce qu'en vrai, on voit quand même encore beaucoup de corps très, très normés. Après, c'est sûr que si on se retrouve dans un milieu où il y a une nouvelle injonction, c'est si tu te plains parce que t'as un peu grossi et que ça. Je sais pas, par exemple, moi, j'ai des copines qui ont eu des bébés. Bah, en fait, après, elles avaient un peu du poids de grossesse, et c'est vrai que, il y en a certaines que ça gênait, elles avaient envie de retourner un peu leur corps, entre guillemets, leur corps d'avant. Peut-être que dans un monde idéal, on s'en fout. C'est comme peut-être que dans un monde idéal, on s'en fout de prendre un coup de vieux. Mais en réalité, parfois, c'est douloureux parce qu'en fait, on reste des personnes et qu'on a été biberonnés à des corps parfaits et à des visages qui ne vieillissent pas, et on l'est de plus en plus. Parfois, c'est douloureux, et je pense qu'effectivement, c'est chouette de conserver un espace pour exprimer cette douleur sans qu'on vous juge comme une mauvaise féministe, par exemple.
Ça se partage. Justement, enfin, tout ça, c'est des questions qui se partagent. Tant que tu restes pas enfermé derrière tes modèles, tes normes en bouquin et en coaching, c'est OK, quoi. Moi, il y a une autre, un autre truc sur les femmes aujourd'hui, tu sais, cette expression très utilisée de femme puissante qui me met super mal à l'aise, moi. Vraiment, j'ai l'impression d'entendre une caricature, enfin, on dirait la série de Blanche Gardin, enfin, tu vois, femme puissante, tu vois, la meilleure version de moi-même, c'est en soi, on dirait un titre du Gorafi, mais femme puissante, bon, hein, déjà, moi, je vois Léa Salamé partout, là, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de la même personne puissante. Mais ouais, ça te met pas mal à l'aise, soit ce truc de. Parce qu'il y a à la fois le côté c'est cool, on a les pouvoirs, il y a encore le côté allez, vas-y, sois puissante, quoi.
En fait, ça dépend comment on l'entend. Je pense que dans la question de la puissance, il y a parfois on est un peu, je pense, en tant que femme dans un système patriarcal, on est un petit peu dépossédé de notre puissance, même physique. Tu vois, moi je suis prof de yoga à la base, donc je fais beaucoup de sport, et je suis convaincue que par exemple avoir développé sa puissance physique, en vrai, ça, notre corps il est aussi fait pour se défendre, par exemple, donc ça peut être utile. Ça nous aide aussi, je trouve, d'un point de vue pour le coup de mindset, peut-être à aller affronter un peu plus, à ouvrir un peu plus sa gueule en réunion, par exemple, tu vois, devant des hommes devant lesquels on n'ose jamais parler à la base. Oui, c'est vrai que si puissance, ça veut dire pour que quelques femmes émergent et deviennent une sorte de nouvelle élite, et qu'en fait toutes les autres femmes précarisées, elles soient toujours en train de, en gros, de faire du travail plus ou moins visible pour que quelques femmes émergent, des femmes de pouvoir, quoi. Oui, c'est un problème. C'est le terme de puissance. Le problème, c'est que c'est aussi un terme qui peut être relativement creux, tu vois. Enfin, ça veut dire plein de choses. Oui. De même qu'il y a plusieurs féminismes. Il y a un féminisme très libéral. Il y a un féminisme de droite, il y a un féminisme plus radical, il y a plein de sortes de féminisme. Donc je pense que ça dépend comment on l'utilise, mais c'est sûr que si on utilise puissante comme un slogan sur un t-shirt juste pour afficher un féminisme de façade, mais que derrière ce féminisme n'est pas politisé, moi j'adore les gens qui ont des, j'en vois partout, il y a des gens qui ont des t-shirts, girl power, derrière tu leur dis ok, très bien, c'est quoi ton, qu'est-ce que tu votes, c'est quoi tes idées, qu'est-ce qui te, contre quoi tu te bats, et en fait souvent c'est un petit peu creux derrière.
Non, mais j'aime bien ta nuance sur puissance, justement, en effet, la puissance physique, etc., la place à prendre ou la place pour soi, et effectivement aussi l'idée que c'est un terme souvent creux, c'est-à-dire femme puissante ne veut toujours pas dire femme de pouvoir.
C'est vrai.
Même un sujet. Complètement. Tu vois, c'est ok, c'est super, on est puissante, et t'as raison, on met des t-shirts et on fait du stiletto féminisme, mais en fait, on veut juste bien avoir les postes de pouvoir.
Et par contre, moi, j'aime bien le terme, par exemple, de puissance collective, tu vois, j'aime bien l'idée de me dire, enfin, moi, par exemple, je me retrouve souvent avec des, entre meufs, tu vois, dans des espaces non mixtes, je sais pas, dans le cadre de, pas forcément des espaces militants, mais aussi, tu vois, même des trucs de yoga, des trucs de sport, et je pense qu'en vrai il y a quand même un truc très nourrissant et très thérapeutique à se retrouver comme ça avec d'autres femmes. Il y a un côté puissance collective qui peut nous nourrir. Je voudrais pas non plus qu'on tombe dans un truc de genre on a parlé de puissance et puis c'est devenu un peu ringard et puis du coup on n'a plus le droit de parler d'utiliser ce terme. Tu vois, c'est un peu le problème je trouve avec tous ces concepts là, quoi.
Et alors justement, je voulais parler de ça avec toi. Tout à l'heure je parlais deux secondes de Blanche Gardin et sa série. Je sais pas si tu l'avais vu, la meilleure version de moi-même, qui était qui caricaturait énormément les cercles de femmes. Et alors bon, c'est une humoriste aussi, voilà. Mais il y a un sujet, c'est que moi, des fois, avec des copines à moi qui sont très qui sont naturopathes, très dans un développement et un bien-être pour elles, mais par la nature, par autre chose, moi, j'apparais comme la vilaine anti bien-être. Ouais. Et moi, je leur dis, moi, je suis pas anti-bien-être. Les nanas, parce que moi, je suis très speed et tout. Ils me disent, ah, mais t'es anti-bien-être, toi, tu fumes, tu vas, tu fonces. Ça n'a aucun rapport. Je suis simplement opposée à cette vente, comme ça, de penser McDonald's de bien-être. Voilà, ça je trouve ça dangereux. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait de... Voilà, qu'est-ce que tu penses, toi, justement, par exemple? Alors, moi, je n'y connais rien. Par exemple, c'est le féminin sacré, ces rituels-là. Qu'est-ce qu'on pense de ces mouvements-là? Qu'est-ce qu'on... Enfin, il y a un bardamonce derrière. Il y a des tonnes de trucs, mais...
En fait, effectivement, comme tu le dis, derrière le féminin sacré, la féminin sacré, c'est un terme, c'est comme puissante ou quoi, ça peut être utilisé pour plein de choses. Donc, évidemment, on va y trouver tout un tas de choses. Peut-être, par exemple, des cercles de parole de femmes, des cérémonies, voilà. Moi, déjà, j'ai un problème avec le terme, parce que quand on parle de féminin, en fait, on l'oppose à masculin. Ouais. Et donc, en fait, on crée une sorte de dichotomie, comme si sur Terre, il y avait un peu deux énergies, une masculine, une féminine. Ouais. La féminine, ça va être souvent la douceur, la vulnérabilité, la créativité, la tendresse, une forme de chaleur, etc. Le masculin, ça va plutôt être la virilité, la force, agir, concrétiser des choses, etc. Donc, comme si, en gros, le monde était régi un peu par ces deux forces. Moi, j'entends que c'est intéressant de cultiver des qualités qui sont peut-être moins valorisées dans cette société, comme la vulnérabilité, la douceur. Pourquoi est-ce qu'il faut les appeler féminins, en fait?
Ouais, tout à fait.
On est dans une société patriarcale qui littéralement se définit comme un espace où les petits garçons puis les hommes sont sociabilisés à être... des êtres virils et invulnérables, ce qui les fait beaucoup souffrir. En réalité, la psychologie sociale l'a montré, ça les dépossède d'eux-mêmes, quelque part, ça les dépossède de toute une partie d'eux-mêmes. Effectivement, les femmes sont sociabilisées à être plus douces, etc. Mais c'est pas quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les femmes sont douces et le féminin est doux. Et donc, en fait, pour moi, utiliser féminin sacré, c'est encourager ce qu'on pourrait appeler une essentialisation de ça, tu vois, de les femmes féminin égale douceur.
Ouais. Et pourtant, c'est des trucs récents. Enfin, tu vois, y a un côté un peu new age, machin.
Ouais, c'est très new age.
Mais il y a un côté aussi qui se veut moderne, qui se veut récent. Comment tu peux, effectivement, aujourd'hui, faire un truc scindé en deux, greluche, mec. Enfin, tu vois, c'est
mais parce que
caricatural,
parce
mais c'est
que
vrai.
Parce que la plupart des gens pensent de façon très binaire, en fait, encore, je pense, tu vois, et qu'effectivement, les gens se disent. Enfin, en fait, pour moi, il y a une intuition qui est, entre guillemets, bonne, en tout cas intéressante dans le féminin sacré, c'est de dire ce que je disais à l'instant. Il y a des valeurs comme la douceur, la tendresse, la vulnérabilité qui ne sont pas très valorisées dans cette société, qu'on pourrait valoriser un peu plus. Et on dit notamment aux femmes, retrouvez-vous, faites des cercles de parole, je sais pas, pour pleurer, pour exprimer vos émotions. Et en fait, ça pourrait suffire. Je ne vois pas pourquoi il faut appeler ça féminin sacré. Le problème, c'est dès qu'on tombe dans une espèce de... On va dire, j'aime pas ce terme parce qu'il veut rien dire, mais d'extrémisme un peu du truc où, du coup, il faut plus, je sais pas, être ambitieuse parce que c'est pas très féminin sacré. Il faut plus être, je sais pas, parfois masculine dans sa façon d'être.
Mais ça reste justement hyper binaire et alors anti-queer à mort.
Totalement. Mais ça nie toute la multiplicité très queer, comme tu dis, de ce qu'on peut être nous en tant qu'humain. Puis ça mène parfois, pas toujours évidemment, mais au bout du chemin du féminin sacré, il y a les tradwives, par exemple, des femmes traditionnelles qui retrouvent un peu le côté maternité, contact avec mère nature, Gaïa, etc. Et encore une fois, super le contact avec la nature. Moi, j'habite à la campagne, j'aime trop, c'est formidable, vive les arbres, vive le vivant. Est-ce qu'on est obligé d'en faire un truc qui finalement remet les femmes dans la case mère nourricière qui ne peuvent faire que ça, en fait?
Alors même que, justement, si tu sors de la binarité féminin-masculin, moi, je sais qu'il y a un argument que j'ai tout le temps dès que je fais un truc sur les réseaux, c'est les féminines, on vous entend moins quand il faut aller en Ukraine. Tu sais, et donc où tu as toujours envie de répondre oui, mais peut-être que plus de femmes au pouvoir, on ferait autrement l'exercice du pouvoir et que justement les notions de vulnérabilité, de dialogue, de voilà, ce qui est dit féminin peut s'étendre plus largement à une manière d'exercer un pouvoir.
Bah, c'est là où en fait, si les qualités dites féminines qui en fait ne sont pas du tout féminines, qui ont juste été refilées aux femmes, en gros, qui peuvent être effectivement la vulnérabilité, la tendresse, l'écoute, la douceur, etc. Mais en fait, ce sont des qualités qu'on peut se partager, hommes, femmes, et personne ne se reconnaissant ni dans le qualificatif homme ou femme. Mais de même que, par ailleurs, moi, j'ai aucun problème avec la force, la puissance, le muscle, agir, être concret, faire des projets, la rationalité. Par contre, ne venez pas me dire que c'est spécifiquement masculin. Personnellement, je me sens très rationnelle et très concrète et très dans mes projets. Et je me sens pas... Parce que, je te dis ça parce que en écrivant ce livre, à un moment, je donne l'exemple de quand j'étais plus jeune, j'ai été voir une kinésiologue. Donc, c'est une méthode un peu paramédical, on va dire, et qui m'a dit, enfin, qui était horrifiée parce que j'étais arrivée avec un t-shirt army, tu sais, avec du camouflage un peu, et qui avait dit à ma mère, je crois qu'elle avait pris la main de ma mère et lui avait dit, oh, il faut absolument qu'elle se reconnecte à son féminin parce qu'elle avait vu en moi, elle me voyait comme une fille, oh là là, il y a trop de masculin en elle, ça va, qu'est-ce que ça va faire? Je pense que ça va, je m'en suis sortie malgré masculin en moi.
Moi, j'avais ma première psy qui était très tradie, je crois, et qui n'arrêtait pas de me dire, mais madame, non, mademoiselle, bien sûr, elle me faisait du mademoiselle, vous savez, vous n'êtes pas seule dans la jungle avec votre machette. Si, ça y allait pas mal, mon image, j'aime bien, moi j'avance quand même. Hein. Mais ouais. Et alors, est-ce que tu crois qu'il y a quand même des choses positives à garder ça, justement? Et qu'est-ce qui pourrait être... parce que tu parlais des cercles de femmes, moi j'avais fait une tente rouge une fois.
Okay.
Et au début, j'avais fait ça en mode, oh, on va bien rigoler, on va faire un podcast. Et en fait, ouais, j'étais assez émue. Enfin, au début, je suis arrivée comme j'étais, c'est-à-dire en racontant des conneries. Puis à la suite de quoi, Enfin, moi, je suis quand même assez cliente. En vrai, la résistance dure pas longtemps. Et donc oui, ça, c'est des cercles de parole, ou même les réunions en non-mixité sur certains sujets, etc. Mais ça, c'est de l'activisme ou c'est du militantisme ou c'est de la réflexion. Mais sur le développement personnel, est-ce que tu vois, toi, quand même, des formes qui pourraient être positives, non culpabilisantes, non injonctions, non...
En fait, je pense que si les espaces aujourd'hui de bien-être et de développement personnel ont autant de succès, c'est aussi parce que ça fait peut-être partie des rares espaces dans cette société où on peut justement aller y aller comme personne vulnérable, avec nos peines, nos douleurs. On peut se retrouver entre humains et pleurer et dire qu'on va mal et dire j'ai envie de travailler sur moi. Et ça, c'est OK, en fait, parce que je pense aussi que cette société capitaliste essaie à tout prix de faire de nous des machines ultra productives, ultra efficaces au travail, sans émotion, qui ne vieilliraient pas. Et je pense que rendre hommage à nous humains, c'est rendre hommage à nos vulnérabilités.
Ouais.
Et donc, si ces espaces, c'est des espaces qui permettent d'accueillir ces vulnérabilités, ça me va.
Ouais.
Ce qui m'inquiète toujours un peu, c'est le côté un petit peu sectaire derrière ça, tu vois.
Ouais.
Dérive sectaire, évidemment, on a un peu l'image du gourou au fin fond des événements qui fait n'importe quoi, et c'est une réalité, ça existe,
bien sûr.
C'est sans doute pas la majorité des espaces, mais ça existe. Mais pour moi, la culture ultra néolibérale, ultra capitaliste qu'on retrouve dans certains espaces de développement personnel est aussi une dérive sectaire. C'est-à-dire que quand tu vas dans un espace une conférence, comme il y en a aujourd'hui beaucoup de développement personnel, tu vois, dans des grands amphithéâtres avec 5000 personnes, un peu des stars du développement personnel, et qu'on leur martèle des trucs hyper capitalistes, genre vous êtes à la barre de votre vie, il n'y a que vous qui machin, vous êtes responsable de votre bonheur et tout, mais c'est une religion aussi. Ça ne repose sur rien, et ça fait des humains qui sont complètement, dont le cerveau est totalement lavé, qui sont totalement individualistes, totalement recentrés sur eux-mêmes, et je pense pas tout à fait aptes à structurer une société pour la rendre plus juste, plus belle, plus émancipatrice pour tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, il me semble, ce dont on a besoin, c'est se foutre la paix, je l'ai dit tout à l'heure, plus de collectifs, passer du temps avec nos potes sans les juger, sans espérer qu'eux aussi deviennent leur meilleure version de soi-même. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on pourrait développer et que vraiment on ne développe pas dans des conférences de 5000 personnes de développement personnel, sincèrement. Ouais.
Mais tu connais, toi, vraiment des lieux un peu sympathiques, des lieux de... c'est l'exercice de sa propre pratique. Toi, t'es prof de yoga, c'est faire du yoga sans vouloir être ni la meuf la plus tranquille, la plus musclé de France,
c'est vachement un truc d'intention, en fait. Je pense que pourquoi vous faites les choses, est-ce que effectivement, moi j'ai toujours avec le yoga, tu vois, je le dis à mes élèves, est-ce que vous faites du yoga pour être toujours plus mince parce que c'est bientôt l'épreuve du maillot, parce que dans ces cas-là, pas du tout émancipateur, en fait. Franchement, si vous faites du sport parce que en fait vous essayez de faire en sorte que votre corps ressemble à des images qu'on vous a martelé toute votre vie, en fait arrêtez, horrible, quoi, c'est violent pour votre corps. Votre corps, c'est un espace de joie, de plaisir. Arrêtez de le brider, arrêtez de lui faire mal comme ça, quoi. De même, si vous utilisez le yoga ou autre chose comme juste une pratique, parce que quand vous allez arriver au taf le lundi, vous allez être super concentré, hyper productif, que vous allez donner le meilleur de vous-même, et que peut-être à la fin à la fin du mois, c'est horrible, mais en fait c'est et vous allez vous dire je suis pas totalement une merde parce que j'étais tellement productif au travail, mais est-ce que c'est ça la vie qu'on veut? On est sur Terre une seule fois, c'est pour ça, c'est horrible.
Ouais. Ouais, parce que moi, je veux que sur ma tombe, il y a écrit
employé du mois.
Elle a fait des super PowerPoints. C'était excellent.
Mais non, mais c'est même pas pour. Enfin, je veux surtout pas que les gens se sentent, jugés, parce qu'à un moment, évidemment que c'est chouette aussi de faire du bon travail, de se dire, cool, enfin, c'est satisfaisant. Mais si c'est que ça, votre valeur, c'est terrible, quoi.
En fait, il y a un truc, il y a un lieu à trouver, effectivement, pour s'autoriser. Parce que, en vérité, le bien-être, quand même, porte son nom assez bien. Et l'idée, c'est quand même de se trouver un espace pour soi. Aujourd'hui, on est quand même, on croule, tu vois, la liberté, elle est affichée quand même essentiellement sur les frontons des mairies, parce que les gens qui ont une liberté active et qui ne sont pas dans un carcan de temps, en train d'argent, de trucs à faire, c'est le quotidien de tout le monde. Et donc, tout le monde te dit, oui, bah, c'est la vie. Certes, mais il y a aussi dans la vie cette notion de bien-être qui est un truc pour soi, qui peut être hyper libérateur, physiquement, psychiquement, individuellement. Pour le coup, il n'y a pas non plus que du mal à être sur son individu, tu vois. C'est bien aussi de se réfléchir, de se savoir comment on se ressent, etc. Effectivement, trouver des espaces pour ça, sans, je pense pas d'ailleurs que ce soit nécessairement des espaces très payants, enfin, tu vois. Moi, l'idée d'aller faire 10 balles par mois sur Better Me, qui me prélève toujours d'ailleurs, je n'arrive pas à arrêter, ou alors d'aller faire un truc de gourou. Non, tu vois, il y a quand même une manière de bien-être.
En fait, je pense que c'est aussi simple. L'une des grandes arnaques du capitalisme, c'est de te faire croire que, en fait, le bien-être, il faut que ce soit le prochain truc super cher, super payant, comme c'est le prochain skincare, c'était les sérums, maintenant c'est je sais pas quoi. En fait, c'est une arnaque. Genre, déjà, enfin. Alors, c'est un luxe pour certaines personnes, mais juste prendre du temps chez soi, en fait. Ne rien faire. Enfin, prenez, au lieu d'aller vous payer un cours de yoga à 25 euros, prenez 0 euros chez vous à rien faire. Mettez-vous sur votre canapé et faites la sieste. En fait, la sieste, c'est gratuit. Et vraiment. Et ça peut être aussi aller chiller dans un parc pendant une heure. Ça peut être passer du temps en famille. Il y a des gens pour qui c'est aussi une spiritualité. Enfin, tu vois, genre, moi, je sais pas, j'ai des amis religieux. Bah, en fait, c'est parfois aller, je sais pas, à l'église, à la mosquée ou peu importe. Enfin, c'est aussi un temps de bien-être. En fait, il y a plein de choses qui sont gratuites, qui sont accessibles. Et par contre, je pense que collectivement, on peut lutter pour que avoir de plus en plus d'espaces accessibles, tu vois, des communs, qui seraient des espaces qui ne seraient pas privatisés. Aujourd'hui, c'est compliqué d'aller, par exemple, comme dans une bibliothèque municipale ou dans une piscine municipale ou dans un parc où on puisse se poser. Alors que c'était, je sais pas, il y a 30 ans, c'était plus simple. Il y avait plus d'espaces comme ça communs, tu vois, où on pouvait aller se détendre sans. C'est très étrange, finalement, cette accumulation d'endroits payants, de salles de sport, de machins hyper chers. C'est pas. Voilà. Moi, j'encourage les gens à faire comme dans certains pays, aller se poser dans la rue, en bas de chez eux, discuter avec leurs voisins. Je pense que c'est un acte de bien-être gratuit, très sympa.
Un petit paseo comme en Espagne.
Voilà, exactement.
C'est bien. Bon, écoute, attends, c'est bientôt le printemps. On se souhaite. Les botillons, ils sont interdits maintenant en Espagne, mais juste le paseo, ça sera bien. Eh bien, merci beaucoup, Camille. Donc, je rappelle le nom de ton bouquin qui s'appelle Politiser le bien-être aux éditions Binge Audio. On dirait une pub. T'as vu, je fais ça hyper bien. Comme une fille. Alors, merci à toi, c'est trop cool. Merci. Hyper intéressant. Et bon, on n'achètera pas les bouquins. Pourtant, moi, j'avais acheté un super bouquin, ça s'appelait « Vous n'êtes pas tant une merde que ce que vous croyez ». Non, c'était pas ça, mais ça ressemblait vraiment à ça.
Non, mais je pense que dans le lot, il y a des bons bouquins de développement personnel, bien sûr. Enfin, voilà.
Je vais en faire un bientôt pour me refaire. Bon, allez, bisous, merci à toi.
Salut. Merci.